9h21, vraiment une histoire incroyable ce matin. On va se souvenir avec Monique de cet accident qui implique un train de banlieue à Roxboro. Il y a une jeune fille qui a été heurtée par le train. Habituellement, ça ne pardonne pas, mais elle a survécu. Beaucoup de blessures, beaucoup d'opérations. Et vous avez parlé à cette jeune fille et à sa mère.
Oui, elles ont accepté de revenir sur les 6 derniers mois qui ont été vraiment très, très difficiles, disons-le, Laetitia et sa mère Samia. Quand j'ai vu arriver Laetitia, Paul, debout, hein, dans un premier temps, sur ses deux jambes, souriante, les yeux brillants, j'ai tout de suite senti vraiment une force incroyable chez cette jeune femme-là. Non seulement elle a recommencé à marcher, même si c'est très douloureux, elle peut pas encore marcher très, très longtemps parce que ses hanches se fatiguent rapidement. Et je sais que beaucoup de gens vont se poser la question, son visage, parce qu'elle a été traînée sur une quinzaine de mètres sous ce train en septembre dernier. Son magnifique visage, devrait dire, c'est une jeune femme qui a fait du mannequinat à 16 heures, est intacte. Aucune égratignure sur son visage. Et c'est un récit de résilience. Il y a une part de miracle, en effet, parce que peu de gens, tu l'as dit, Paul, survivent à un impact aussi violent que celui avec un train. Et elle avait 17 ans, donc quand c'est arrivé, elle en a 18 aujourd'hui. C'était en fin de journée. Elle était en retard pour le cégep. La gare Roxboro est située juste à quelques pas de chez elle. Et au même moment, sa mère qui rentre du travail dans le train en direction opposée.
Je vais aller à l'école parce que j'avais un examen. Je quitte la maison 5-6 minutes avant que le train arrive. Donc, j'étais en retard. Je cours. Donc, je sais que j'ai mis mes écouteurs dans mon sac. Je cours. J'arrive à la gare. Je regarde mon téléphone, l'heure. Et je vois une fille juste avant moi qui traverse la passerelle. Quelques centimètres proche de moi. Donc, je me dis, j'ai le temps aussi de traverser. Elle court. Je me dis, OK, je vais courir aussi. Le train de l'autre côté qui sonne pour dire qu'il s'en va bientôt. Après, je m'en rappelle juste, j'étais couchée et je vois des arbres et le ciel bleu. 4 secondes. Et c'est tout. Donc, ce qu'on m'a dit, je criais et je bougeais. Je n'ai pas perdu connaissance.
Vous étiez à bord?
J'étais à bord du train qui l'a happé. Je revenais de mon travail. Le train s'est arrêté. Et puis, ils nous ont bloqués. Et je voyais le monde qui courait à gauche-droite. Et je me demandais ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai eu tout mon corps avec la chair de poule. Je n'étais pas bien. Après, ils nous ont laissé descendre. Les gens de Roxboro peuvent descendre. Puis, il y avait une foule. Il y avait du monde. Il y avait des policiers. Puis, des pompiers surtout. Mais moi, j'évitais de regarder. Mais je ne sais pas, c'était comme quelque chose qui me disait, vas-y, va regarder, peut-être c'est elle. J'avais comme un pressentiment, je ne sais pas. Je me sentais tellement pas bien. Je ne me suis même pas rapprochée. Je regardais juste de loin. Puis il y avait comme une sorte d'espace. C'est là que j'ai reconnu ses cheveux. C'était ses cheveux qui étaient sur le quai. Mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu, non, c'est pas vrai. J'ai couru, il ne voulait pas me laisser parce que c'était interdit d'avancer. Je suis accrochée sur un pompier. Et je lui dis, c'est ma fille. Il m'a dit, non, mais on ne sait pas c'est qui. On n'a pas encore... comment ça, vous savez? Je lui dis, non, mais c'est ma fille. J'étais dans le train. Je la vois, c'est ma fille. Laissez-moi moi m'approcher d'elle. Puis c'est là, quand elle criait, elle se débattait. Elle m'a permis d'avancer pour... Elle m'a dit, allez-y, peut-être vous allez la calmer. Elle avait les yeux qui partaient, mais elle criait de toutes ses forces. Puis il y avait tellement de sang partout. Et moi, ce que je faisais, c'est juste toucher sa tête et voir si elle avait rien perdu sur le champ. Je voulais pas y croire. Je me dis, c'est pas vrai, c'est pas elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que je voyais les arbres avec le ciel bleu et je sentais que ma mère me touchait. Je sais qu'elle était là. J'ai senti sa présence.
C'est incroyable qu'elle ait survécu là, après avoir été heurtée par un train. Et lorsqu'on comprend, puis les témoins confirment la même chose, là, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu le train là, qui avançait.
C'est ce qu'elle dit. Et contrairement à ce qui avait circulé au moment de l'accident et même dans les jours suivants, qu'elle avait ses écouteurs sur ses oreilles, il semble que ce ne soit pas le cas du tout. Elle pensait vraiment avoir le temps de traverser, bon, avec un contexte où elle est en retard, elle a un examen qu'elle ne doit pas manquer. Mais la scène qu'on m'a décrite, c'est les gens perdaient connaissance. Là. Imaginez sur la gare, là, sur le quai, parce que tellement que la scène était intense, et on a rapidement, bien sûr, transporté Laetitia à l'hôpital. Elle était à ce moment-là entre la vie et la mort, et elle est entrée en salle d'opération.
C'était un autre cauchemar à l'hôpital, parce que est-ce qu'elle est morte? Elle m'a dit non, mais elle est dans un état critique, mais elle vit, son cœur est bon. Le chirurgien est sorti pour me dire, juste pour vous rassurer que sa colonne vertébrale est correcte. Donc, elle va remarcher. Ça va aller. Il m'a dit, sa tête est correcte. Il me disait, j'arrive pas à y croire. Ça fait des années que je fais des chirurgies, des accidents comme ça. Et puis, ils me disent sur la table que c'est un accident de train. Je dis, il n'y a aucune vertèbre déplacée. quand même traîner 15 mètres, c'est quelque chose. Entre les rails, c'est quelque chose.
Et là, je comprends que le chirurgien était abasourdi.
Stupéfait, oui.
Mais elle, quand elle s'est réveillée, là, parce que bon, il faut l'opérer, il y a ce début de convalescence.
On l'a gardée dans un coma aussi pendant un certain temps.
Mais est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a réalisé ce qu'elle venait de vivre?
Quand elle ouvre les yeux, là, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé.
Elle, pourquoi
dans sa
elle
tête,
est à l'hôpital, elle ne sait pas.
Elle ne sait pas pourquoi. Elle est convaincue qu'elle a pris le train cette journée-là et elle se retrouve prise au piège carrément dans son lit d'hôpital.
Je pensais, à un moment donné, j'étais devenue folle. Je me réveille, je suis dans un lit d'hôpital. Je comprenais pas, je pouvais plus rien bouger de mon corps. Puis j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Et puis personne ne voulait rien me dire. Et je criais, qu'est-ce qu'il y a? Puis il me disait juste, ah, c'est bon, il n'y a rien. Il n'y a pas rien, je peux même pas bouger mes bras. Et après, je l'ai su plus tard. J'arrivais pas à y croire, en fait. Je disais, non, c'est pas vrai, c'est impossible. Et moi, dans ma tête, j'étais à l'école. J'ai dit, ben non, j'ai pris le train, je suis partie à l'école et tout. On me le dit, plus j'y crois, ben j'ai un bras cassé, j'ai une jambe cassée, j'ai un truc dans mon bassin, un fixateur externe. C'est fini, ma vie. Si je suis comme ça pour le reste de ma vie, ça y est, je sors plus, j'étudie plus, je suis plus rien. C'est fini. J'avais juste 17 ans, j'ai même rien fait dans ma vie.
T'es restée combien de temps à l'hôpital?
C'était un mois environ. Et après, je suis allée au centre de réadaptation pour 2 mois et demi. Je pouvais pas marcher. J'étais transportée avec un lève-personne. C'était vraiment dur. Faut que tu rapprennes comme un bébé qui vient de naître. Déjà, c'est très douloureux. Tous les jours, je pleurais à ma mère. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'arrive pas à faire ça? Pourquoi? Après, ma mère me disait, non, t'es capable, on est tous là pour toi. Ils venaient me voir tous les jours. Mes médecins me disaient que j'étais jeune, donc mes os vont se régénérer plus rapidement, que j'avais une certaine chance, c'est ça, dans ma malchance. Ça touche beaucoup sur le mental. C'est au début, on se rend pas compte, parce qu'on est vraiment sur pourquoi je marche pas, pourquoi j'arrive pas à faire ça. Donc, on veut guérir le physique. Mais après, les gens, comment ils me regardent, la fille qui s'est fait frapper par le train, c'est toujours comme ça.
Elle a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Son médecin au centre de réadaptation disait, ta fille est magnifique. Donc, c'est quelqu'un d'une battante, donc c'est une personne très positive. Mais c'était très difficile pour moi de la voir dans cet état.
Là, je rappelle que l'accident s'est produit à la gare de Roxboro,
oui,
train de banlieue.
En septembre.
Et donc, elle doit aller à ses cours, rapidement, elle est en retard, et décide de traverser. Est-ce que depuis l'accident, on a modifié la configuration des lieux pour que ça soit plus clair, pour éviter que quelqu'un puisse comme ça aussi facilement traverser la voie?
Il semble que non. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de barrière, rien, alors que partout ailleurs, même si on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, c'est très, très rare de voir des piétons côtoyer des trains. Autrement dit, souvent, il y a des passerelles par-dessus ou encore des portes qui s'ouvrent au moment où les piétons peuvent traverser ou à tout le moins une barrière, un peu comme on le voit pour des voitures, finalement, lumineuses qui permettent aux piétons de passer. Et la famille a fait des démarches en ce sens depuis plusieurs mois. On leur a envoyé, Paul, une belle lettre bien propre en disant qu'ils devaient continuer d'acheminer leurs demandes par écrit. Ça fait partie, je te dirais, entre autres, des raisons pour lesquelles Laetitia et sa mère ont voulu justement revenir sur ce qui s'est passé.
Même si j'ai eu un accident horrible, que j'ai eu d'énormes séquelles, que j'ai souffert physiquement comme psychologiquement, je suis presque intacte. Mais aussi, j'aimerais dire que Ils n'ont pas sécurisé ça à 100%. Comme les voitures, une barrière. Et j'aurais pu mourir. Tant que, je suis pas morte, donc c'est correct. Mais si je serais morte, là, peut-être ils auraient fait quelque chose. Non, mais non, bon, elle est en vie, c'est bon. Mais non, ça aurait pu être un enfant qui a lâché de la main de sa mère.
Je comprends pas comment une gare aussi achalandée. Donc, comment ça se fait, ils n'ont pas mis de barrière? Et même pas un projet de barrière ou quelque chose. Rien du tout. Mettez quelque chose qui montre que la personne, le piéton, n'a plus le droit de passer par là. Parce qu'il y a juste un passage. J'ai écrit mon dernier courriel en leur disant « J'espère que vous n'avez pas jeté ma requête dans les oubliettes. » C'est tout. Je crie en tant que citoyenne avant de crier en tant que cœur de maman.
Oui, je pense qu'il faudrait effectivement quelque chose soit fait en ce sens. Et concernant, en terminant, l'indemnisation, parce que vous savez, quand vous avez un accident au travail, c'est la CSST qui s'en occupe. Un accident de la route, c'est la SAAQ. Un acte criminel, c'est l'IVAC. Mais quand, par miracle, vous survivez à un accident de train, là, tout le monde se renvoie la balle. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer présentement. Il semble, et j'ai lu des échanges courriels en ce sens, que l'AMT poursuit Bombardier en ce moment, en lien avec l'accident. Mais pendant ce temps-là, Laetitia, elle se relève. Elle a encore beaucoup de réhabilitation à faire, plusieurs heures par semaine, et rêve d'une carrière en design de mode. Espère qu'elle pourra recommencer à coudre bientôt parce que ses bras recommencent à avoir la mobilité qu'elle avait avant. Donc oui, marquée à jamais, mais bien vivante. Et ce qu'elle voulait, c'est ne plus être juste la fille qui s'est fait happer par un train.
Non, et je pense que la façon dont elle témoigne, c'est assez clair qu'elle est pensée à autre chose. Merci, Monique. C'est quand même assez renversant. Hein. Quelqu'un frappé par un train comme ça, puis qui survit, puis qui, malgré toutes les blessures, est en train de remonter. Seulement 17 ans au moment de l'accident.